Bonsoir à vous tous, merci de votre invitation. Donc effectivement, l'actualité offre un visage qui est sans doute assez hallucinant. De voir à quel point les miracles que vous avez promis se sont transformés en catastrophes majeures. Alors ce que je vais essayer de faire dans une première partie de la réunion, c'est de présenter quelques éléments d'analyse, de compréhension de ce qui se passe. Et vous n'entendez pas au fond? Alors c'est la réverbération? C'est pas assez fort. C'est pas assez fort. Bon, on va parler plus fort. Ce que je vais essayer de faire donc pendant cette première partie de la réunion, c'est de présenter quelques éléments de compréhension de ce qui se passe et qu'après nous discuterons bien sûr à partir de vos propres apports, de vos propres interrogations ou questions. Alors, le premier point que je vais aborder concerne le contexte dans lequel cette crise se produit et je vais m'aider de quelques diapositives que je vais passer à l'écran et que vous pouvez retrouver, si vous le souhaitez, sur mon site internet dont vous voyez l'adresse sous 2011 ici, et puis des compléments d'information sur le blog dont vient de parler François, sur le site d'Alternative économique. Donc vous voyez les deux adresses à l'écran. Et le premier élément, donc, dans quel contexte se situe ce qui est appelé quotidiennement? Vous ne l'avez pas noté, mais rassurez-vous, ça pourra revenir, n'ayez pas peur, on voit déjà des visages angoissés. Vous n'allez pas être angoissé par mon adresse électronique. En revanche, ce qui est angoissant, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Situation qui est marquée donc par le contexte de la crise générale du capitalisme mondial et qui sévit avec une violence inouïe et sans doute de manière inédite depuis maintenant plus de 4 ans, puisqu'elle a éclaté au grand jour, même si les prémices remontent un peu plus haut dans le temps, elle a éclaté au grand jour pendant l'été 2007. Donc le contexte de cette crise, c'est toujours, pour le capitalisme, une chute de sa rentabilité. Une chute de la rentabilité du capital qu'on mesure par le taux de profit, c'est-à-dire le rapport qu'il y a entre le profit récolté pour les actionnaires et les masses de capitaux qu'ils ont investis pour les obtenir. Et si on regarde, si on a une vue sur la longue période de l'histoire du capitalisme contemporain, on s'aperçoit que ce taux de rentabilité dans les principaux pays qui gouvernent le monde, à savoir les États-Unis, les principaux pays d'Europe occidentale et le Japon, qui sont jusqu'à récemment qui étaient les pays capitalistes les plus développés, les plus riches, eh bien si on regarde sur une période assez longue, qui s'étale ici sur environ une cinquantaine d'années, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, le taux de rentabilité du capital a connu une chute énorme, une chute extrêmement importante au tournant des années 60-70. À la fin des années 60, ça démarre d'abord aux États-Unis, à partir du milieu des années 60, 1965-6 à peu près, et c'est suivi quelques années après de l'Europe occidentale, du Japon, la rentabilité du capital s'effondre, et s'effondre drastiquement. Pour des raisons que j'expliquerai, si vous le souhaitez, après dans la discussion, comme va remonter au déluge, donc je m'en tiens là. Donc il y a une chute de rentabilité du capital qui est mesurée donc, par le début du graphique que vous voyez ici. Je vous le montre avec la flèche, voilà. Donc, et cette chute dure grosso modo une bonne dizaine d'années. Imaginez-vous que les classes dominantes dans le monde ne restent pas les bras ballants. L'érosion de la rentabilité des capitaux ne peut pas rester sans réaction. Et donc, pendant la décennie 70 où cette chute se produit, les classes dirigeantes dans le monde, alors que ce soit les grands dirigeants politiques ou bien les dirigeants des grandes sociétés multinationales, des banques, bref, la haute bourgeoisie mondiale, prend deux séries de décisions et qui vont être mises en œuvre assez rapidement à partir de la fin des années 70 et au début des années 80. Ces deux séries de décisions portent premièrement sur la liberté totale accordée aux capitaux pour circuler. Capitaux qui avaient une circulation modérée, muselée, même on peut dire, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait un tas de contrôles, d'obstacles à la circulation des capitaux. Tous les obstacles sont enlevés à cette période-là. Et donc c'est le moment où la déréglementation générale, c'est-à-dire le recul de tous les contrôles, va commencer. C'est le moment où on va commencer aussi toute la série de privatisations, de déréglementations générales dans le monde entier. Et à partir du moment où les capitaux peuvent circuler totalement librement, eh bien, ils peuvent aller s'investir dans des zones dans le monde où ils peuvent rapporter davantage, par exemple dans les pays qui commencent à émerger, le mot n'est pas encore prononcé à l'époque, mais il va vite apparaître, là où la main-d'œuvre est payée beaucoup plus bas que dans les pays capitalistes développés. Mais s'il y avait eu que cette décision-là, elle n'aurait pas pu produire ses effets à plein comme elle va les produire parce qu'il y a eu une seconde série que vous avez annoncée de mesures qui vont, celles-ci, porter sur la transformation complète de la manière de gérer la force de travail dans les pays capitalistes. Alors que dans la période antérieure, que l'on a appelée la période des Trente Glorieuses, hein, donc qui suit la Seconde Guerre mondiale, dans la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, dans les pays capitalistes, grosso modo, une période où le chômage n'existait pas, ou très peu, où les salariés avaient pu conquérir un certain nombre de droits sociaux importants, le rapport de force leur était relativement favorable à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et leur salaire suivait, grosso modo, l'accroissement de la richesse produite. Leur productivité augmentait, les salaires augmentaient. Et la deuxième série de décisions prises par les classes dominantes dans le monde pour remédier à la chute de la rentabilité a consisté à rompre la manière dont était gérée la force de travail auparavant, c'est-à-dire d'abord de supprimer le parallélisme entre l'évolution des salaires et l'évolution de la productivité, donc l'évolution de la richesse produite. Commencer à laminer progressivement toutes les protections sociales, assurance maladie, retraite, alors ça ne va pas se faire immédiatement, mais progressivement tout ça va se mettre en place, et raboter le droit du travail là où il existe. Et donc cette transformation de la condition du travail dans le monde entier va produire bien sûr une précarisation, l'impossibilité apparente de contenir la montée du chômage, qui va augmenter partout, partout. Et au total, vous allez voir une diminution considérable de la part de la richesse qui va au travail dans l'ensemble de la richesse produite. C'est mesuré par toutes les statistiques officielles maintenant. Jusqu'à il y a 3-4 ans, les économistes hétérodoxes, comme ceux d'ATAG, de la Fondation Copernic, des syndicats contestataires du système, le disaient, mais on leur riait au nez, ils disaient, mais non, non, la part des salaires ne baisse pas dans la richesse produite. Maintenant, c'est avéré. Là, vous avez un graphique qui vient du Fonds monétaire international. Donc, maintenant, le Fonds monétaire international, vous savez, c'est l'organisme le plus subversif du monde. Hein, donc, on peut leur faire confiance, faire confiance à leurs experts. C'est mesuré également depuis 2 ans par l'INSEE. Et alors, pour le cas de la France, et le cas de la France est extrêmement éloquent. Parce que regardez ce qui se passe. Après la Seconde Guerre mondiale, donc de 1950 jusqu'aux années 70, on a une part, alors, des salaires dans la valeur ajoutée brute des sociétés non financières en France, c'est-à-dire les entreprises productives, si vous acceptez les banques et les assurances, donc c'est toutes les entreprises du secteur productif, donc dans leur valeur ajoutée, jusqu'aux années 70, on a une relative stabilité, avec toute petite oscillation, de la part salariale dans la richesse produite. La crise éclate. Baisse de la rentabilité du capital. En plus, les capitalistes se prennent sur le dos la hausse du prix pétrolier, du pétrole en 1973. Mais la crise était déjà amorcée auparavant. Hein. Ce n'est pas la faute au pétrole, mais là, celui-ci vient s'ajouter. Bref, crise dans le début des années 70 qui provoque une montée passagère, mais une montée quand même importante, de la part salariale dans la richesse. Parce que les salariés ne sont pas encore atteints par le chômage. Ils ont encore le rapport de force en leur faveur. Et ils peuvent réclamer des augmentations de salaire, alors même que la rentabilité du capital s'est réduite. Ça ne dure pas longtemps, parce que le tournant de la rigueur va vite intervenir au début des années 80, en France, en Angleterre, aux États-Unis, etc., un peu partout. Et ce dont je vous parlais il y a un instant, à savoir la rupture de l'évolution des salaires, du parallélisme entre l'évolution des salaires et l'évolution de la richesse, va se traduire par une chute vertigineuse, parce que c'est le mot qui convient, de la part salariale dans la valeur ajoutée, qui est chiffrée par l'INSEE. Donc ce n'est pas non plus là l'organisme le plus subversif en France, donc les statistiques sont reconnues comme fiables, qui est chiffré à 10 points de pourcentage par rapport au plus haut sommet antérieur. Vous le voyez, donc ça passe d'environ 75-76% de la richesse totale, ça passe à 65-6. Et si on le mesure simplement par rapport à la part qui était atteinte dans l'après-guerre, ce n'est pas 10 points, mais c'est la moitié, 5 points. Donc au bas mot, 5 points par rapport à la période antérieure et 10 points de recul par rapport au pic qui avait été atteint juste avant la mise en place de la rigueur. Et depuis la fin de la décennie 80, la chute intervient en quelques années à peine, donc de 82-83 jusqu'en 89-90, et après, il y a une stabilité. Et la stabilité dure depuis 20 ans à peu près. Ce qui fait que lorsque l'INSEE a produit ce graphique pour la France, il y a donc 2 ans, en 2009, tous les commentateurs libéraux et le gouvernement, tout ministre confondu, ont clamé dans la presse, « Ah, vous voyez bien que la part des salaires ne baisse pas dans la richesse. » Évidemment, elle ne baisse plus depuis 1990 environ, c'est-à-dire depuis 20 ans, mais elle a atteint un tel niveau bas que le mal est fait. Et depuis ce moment-là, la part salariale n'a jamais plus augmenté. Et donc, vous pouvez, si on revient au premier graphique, vous comprendre que la rentabilité du capital, dès l'instant où les deux séries de mesures, liberté accordée aux capitaux pour circuler et transformation de la gestion de la force de travail, vous pouvez comprendre comment le taux de profit a reconnu de nouveau des jours heureux. Des jours heureux pour ceux qui empochent le profit, bien sûr.